qui est-ce qu'on avait prévu d'inviter d'autre? Alors, Raphaël Götter est là. Je suis désolé, j'ai pas de nouvelles de lui. Denis Boudreau, qui fait pas mal d'accompagnement décisionnel, donc il aura sans doute des choses à vous dire. Je sais. En fait, on n'a pas eu de retour des orateurs qui étaient bénévoles pour monter sur Jean-Louis Carves. Et puis Tristan Nitou, ce sera bien. Alors, les orateurs que j'ai pas appelés, c'est pas du tout de la ségrégation. Sentez-vous surtout très libre d'intervenir. Alors donc pas Daniel. Voilà, je vais passer le micro en salle 2. Ouais, c'est bon, ok. Alors voilà, vous avez des micros avec des fils, vous savez, comme au XXe siècle. Oui. Ok, d'accord. Alors, j'ai la lourde tâche de poser la question.
Je le lâche pas, celui-là.
Alors, je vais vite faire le barman avant. Est-ce que vous pouvez en profiter pour vous présenter l'un après l'autre, s'il vous plaît, pour les gens qui n'ont pas vu votre photo? Steph? Could you introduce yourself?
I'm sorry, my French is not very good, so I have to do this in English. If someone requires a translation, please raise your hand, or if I'm speaking too fast, just tell me. My name is Stephanie. I've been working with the WASP since maybe about 2002 or 3, and it's been so long that I can't remember anymore. I mostly work in the realm of learned materials, so resources for teaching XHTML, CSS, and also other necessary technologies. The other things are, so one of the things that I was responsible for, along with Molly Hochlag, is the column that used to be WASP Ask W3C. We used to write questions, post questions for W3C, and Carl and Olivier Thérault will respond with technical answers. That was a couple of years ago. Since then, I have been working mostly with the Education Task Force, and my work is with two other people mostly, but it's a team of about 5 or 6, and a bigger community of people working at universities, colleges, and schools, in order that we give teachers tips, we give administrative people ideas of how to teach standards, how do we change the curriculum being taught at universities so that the next generation of web developers will do the right thing. Hey, it's a big task, it's really, really huge.
Ça va les non-anglophones, ou est-ce que vous voulez un petit résumé? Levez la main, les gens qui n'ont pas compris du tout. Okay.
Ce qu'elle fait, c'est bien.
voilà. Bon, en gros, pour le dire très rapidement, c'était... Grosse contribution à l'éducation des masses, grosso modo, ce qu'on est en train de faire là, quelque part.
The other thing I do for the WASP, which is very new, and a couple of people in this room actually know about it because they are on the correct mailing list, is International Liaison Group. Now, this group has been formed 3 months ago, and it's a group of web developers from and also evangelists from all over the world. We are working towards making resources available for countries which don't speak English. And the French community is particularly one of the very, very few active communities. So we are still looking for people from Russia, for example, to spread the message and to also provide the tools for people to learn CSS and for people to understand web standards and best practices. Apart from the WASP, I have previously done many other things, and I don't think I'll bother going into that.
Alors, deuxième demi-heure. Second half hour.
Jean-Louis Carves, IBM. J'appartiens au Centre d'accessibilité européen. J'ai plutôt un parcours plutôt commercial et marketing. Et en fait, qu'on m'a demandé de rejoindre le Centre d'accessibilité lors de sa création en fin 2000, en fait, j'ai été obligé de me mettre au code. Ma foi, j'arrive à peu près à comprendre ce qui se dit, et j'arrive à peu près aussi à lors des interventions que je peux faire dans certaines conférences ou dans certaines entreprises, j'espère contribuer à augmenter le degré de prise de conscience des standards et de l'accessibilité.
Samuel Letchman, ceux d'entre vous qui me connaissent probablement pour Pompage, donc je m'occupe depuis 2003 peut-être, à plusieurs niveaux, qui donc, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi, un site où on essaye de traduire les articles en anglais les plus importants sur les sur ce qui est le développement web orienté autour des standards et du CSS, et j'ai eu quelques autres implications dans la communauté en France, depuis 2002 environ. Si les orateurs vous semblent une joyeuse bande de copains aujourd'hui, c'est pas juste parce qu'on se connaissait tous au lycée et qu'on a fait des choses ensemble, ce qui est pas vrai. C'est qu'en fait, à 2002 et avant, en France, il y avait personne. Tout ce que je sais, enfin au début, sur des sites anglais. Je réalisais pas la chance que je pouvais avoir parce que je parlais anglais sans problème. Mais en fait, la problématique s'est révélée quand je me suis dit, tiens, qu'est-ce que les gens font en français? Et là, j'ai découvert qu'en 2002, il n'y avait personne. Il y avait l'initiative Open Web qui se mettait en place et Pompage était au point mort. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des orateurs ici ne sont pas là par hasard parce que c'était les premiers à faire bouger les choses en France et ailleurs, permettra de passer à Denis juste à côté. Dans la vraie vie où je suis payé, je suis un peu votre pire ennemi, puisque je travaille dans une grande agence de com américaine orientée marketing relationnel, où on fait 95% de nos sites en flash. Mon plus gros client, c'est Microsoft. Donc voilà.
Cet homme est tout de même un ami. Hein.
Normalement, je suis celui dont vous détestez les pubs sur le web, entre autres, parce que le marketing relationnel sur le web, c'est beaucoup de campagnes de publicité sous toutes ses formes, et ça commence avec les campagnes de bannières, et ça se finit en site de fidélisation avec des jeux, etc., etc. Donc voilà, si vous avez des questions en fait et qui sont à l'opposé sur tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est moi qui vais demander.
Voilà, essayons d'avancer un tout petit peu sur la présentation, sinon je vais pas avoir le temps de poser une question.
Bien, François Nonnenmacher, je suis futur ex webmaster du groupe Capgemini. J'interviens demain à la pause digestion pour vous parler de la refonte de Capgemini.com, mais comme c'est plus orienté décideur et que ça c'était la journée décideur, si vous avez aussi des questions qui sont peut-être qui peuvent rejoindre aussi la présentation qui avait eu de mon confrère d'IBM, je suis là.
Denis Boudreau, à l'instar de Stéphanie, je suis peut-être difficile à comprendre par moment. Vous le dites quand ça arrive.
Mais il parle français, celui-là. Oui.
Je parle français. Je parle effectivement français, mais des fois, ça tourne, ça prend un bar qui est inattendu. J'étais en 2002 sur cybercodeur.net, qui a depuis mouru plusieurs fois et qui est définitivement mort en janvier dernier. Puis j'ai fondé un truc au Québec qui s'appelle W3 Québec, qui n'a rien à voir avec le W3C, même si c'était l'initiative initiale de vouloir créer éventuellement un bureau du W3C au Québec. C'est trop compliqué. Donc le groupe en tant que tel fait la promotion des standards, des bonnes pratiques, l'accessibilité dans l'industrie québécoise du multimédia du web. On a fondé un groupe qui ressemble un peu à AccessiWeb, qui est en train de se créer pour répondre justement aux besoins plutôt gouvernementaux au Québec là-dessus. Puis des trucs du genre. Participer sur certains petits projets comme OpenWeb au début ou Outcast au début, des choses comme ça.
Petit projet donc. Tristan, je te laisse lui taper sur la tête.
Tristan Nito, je suis rentré parce qu'il y avait des croissants.
Voilà.
Ils m'ont demandé de venir. Voilà.
Voilà. Alors j'ai déjà une très très bonne question parce qu'on en parle depuis ce matin et c'est pas anodin en termes de décisionnel. Pourquoi les designers qui sont pro CSS et ceux qui sont pro Flash, donc vous allez voir, on est tout de suite dans le vif du sujet, n'arrivent pas à travailler ensemble main dans la main? Est-ce qu'on peut envisager une solution vivable et possible dans la complémentarité de ces deux choses? Comment vous le voyez? Qui veut répondre? Qui veut décroître?
C'est de donner un premier élément, après vous en ferez ce que vous voudrez. Pour moi, c'est principalement une question de philosophie. avant tout. Et la philosophie, c'est quelque chose auquel on adhère ou on n'y adhère pas, mais on a des difficultés, en tout cas dans le cadre qui nous concerne, c'est-à-dire les gens qui produisent, les designers, à voir l'intérêt pratique et les bénéfices pratiques qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Quand on est dans un stade de création et de réalisation, nos impératifs, c'est le faire dans les temps, le faire de bonne qualité, en sortir, parfois jongler avec quatre autres choses en même temps, être le plus créatif possible. Et tout ça est basé sur une philosophie. On ne peut pas dire à quelqu'un, écoute, fais différemment, parce que pour les utilisateurs, oui, mais le designer, il n'était pas là pour ça au départ, en fait. Celui qui aime Flash, eh ben, on l'a embauché parce qu'il est bon à faire des animations, à faire des choses qui déchirent visuellement. Et celui qui fait du CSS, eh ben, on l'a embauché parce qu'il est bon pour structurer son contenu et avoir une vraie logique. Donc ça reste comme la division traditionnelle designers commerciaux, créatifs commerciaux ou créatifs profil technique. C'est vraiment une façon de voir les choses qui n'est pas incompatible, mais qui demande beaucoup, beaucoup de travail en interne, et j'en sais quelque chose, puisque moi, mon principal problème, c'est pas de convaincre les clients d'adhérer à des bonnes pratiques, c'est de convaincre mes collègues, et même, je parle même pas de les convaincre, en fait, je parle de leur faire comprendre simplement l'intérêt et d'essayer de les y faire adhérer.
François? Moi, j'ai envie de reformuler la question complètement différemment. C'est pas aux designers que je veux poser la question, c'est les gens du marketing, là. Pourquoi vous achetez du Flash? Pourquoi vous claquez votre budget 95% dans l'emballage et rien dans le contenu?
Alors, c'est la fête du marketing. Je vais juste défendre les gens du marketing parce que ils vont avoir l'impression qu'on est venu là.
C'est très provocateur. Ouais. Moi sur le terrain.
Tristan, tu veux donner une réponse marketing?
Ouais, non, parce que moi je vais citer mon maître à penser, c'est Laurent Gloguen, je crois, qui disait qu'en fait les sites en Flash, c'est pour les gens qui n'ont rien à dire. Où tu allais plus. Oui, mais enfin bon, c'est vrai que tu déconnes beaucoup quand même. Pour aller plus loin, c'est pour des gens qui ont à transmettre des informations qu'on peut pas difficilement transmettre avec du texte, avec du sens. Donc, quand on voit un parfum, par exemple, c'est super dur de faire sentir ça par le web, voyez-vous. Faudrait que le W3C travaille sur le sujet avec des implémenteurs. Il y a une RFC, me dit Daniel.
C'est le smell ML, non?
Enfin, le problème est là, c'est que un parfum, c'est, on peut difficilement, au-delà de l'avantage du produit, qui est de dire vous sentirez bon, une fois qu'on a dit ça, il va falloir transmettre d'autres valeurs et le texte n'est pas la meilleure façon de faire. Donc là, je vole au secours de mes camarades du marketing qui,
merci pour eux.
Voilà, qui travaillent dans des domaines où on doit transmettre des choses plus subtiles qui ne peuvent pas être convoyées par du texte.
Stephanie?
Yeah, I have something to add. In my day job, when I'm not doing work stuff, I lead a team of 8 people this week. It will be 9 next week. And we are half Flash and half XHTML CSS people. So the way we address the problem is actually by, like what Sam would say, by team dynamics. So for example, the designer comes up with a maquette. I don't even remember the English word. And so we both look at it and say, okay, can this be done in HTML, CSS? Can this be done in Flash? And then we spread the work. So for example, the framework of a page tends to be done in HTML, CSS because it does not need to be in Flash. And Flash ActionScript is very expensive. So if you produce a banner that is highly animated, it's heavy, and most clients want their site to be light. And this is how we compromise. So we sit down together and say what should be Flash or not.
Ce qui ressemble à une très bonne réponse. Je vous propose
juste une seconde.
Oui, Denis.
Au Québec, ça va l'air complètement par rapport au début, mais au Québec, on a l'État contrôle l'alcool. Il y a une société qui s'appelle la Société des alcools du Québec. Ils ont un motto.
Leitmotiv.
Qui est la modération à bien meilleur goût. Donc, au niveau du Flash, c'est un peu comme ça que je crois qu'on devrait le voir. C'est-à-dire que il y a autant, c'est aussi mauvais de faire un abus d'une technologie que d'une autre. Vouloir faire passer un message qui est un message de commercialisation à travers du HTML a autant de chances de réussir que vouloir faire passer un message à travers un site tout en flash qui est uniquement du contenu. Donc, dans la mesure où on sait réfléchir sur la valeur d'une technologie et ce qui est bien de faire avec, si on part avec cette réflexion-là, on a souvent la réponse avant même de commencer. Puisqu'une fois qu'on fait ça, le seul problème qui nous reste, c'est nous heurter à la culture des gens et à ce qu'ils interprètent comme étant du bon web. Puis rendu là, c'est une question d'éducation uniquement.
Merci. Alors, une question sur l'accessibilité qui va se poser en deux phases. D'abord, puisqu'on parle toujours d'accessibilité en parlant de handicapés, même si ça commence à changer, est-ce que les uns les autres ne craignaient pas d'abord qu'on réduise l'effet de l'accessibilité à un effet de mode? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas un risque de défiance vis-à-vis de l'accessibilité de la part des décideurs qui finissent par prendre l'accessibilité en grippe, puisqu'on les saoule tous avec ça? Et enfin, est-ce qu'il faut considérer prioritairement les minorités et les guillemets autour? Comment vous voyez ça? Comment est-ce qu'on peut considérer que un petit pourcentage d'utilisateurs va pousser votre décision qui va au final concerner tous les gens qui accèdent à votre site?
C'est une table ronde ou c'est une séance de troll là?
C'est un peu les deux. C'est à ça que ça sert.
Là, c'est quand même énorme. C'est pas comme si on... Enfin, moi, j'en suis pas à distribuer des papiers dans des prospectus dans le métro en disant faut faire accessible, quoi. Enfin, je pense pas, même si je l'avais fait, que les gens, ils auraient reçu plusieurs fois mon papier dans la même journée. Vous voyez, c'est...
Ils l'ont eu aujourd'hui, quoi.
Ils l'ont eu aujourd'hui. C'est la première réunion de ce genre en France. Je pense pas qu'on les ait matraqués. On est encore très loin. Je pense que la plupart des gens n'ont pas entendu parler de l'accessibilité, voire pire, ils ne veulent pas entendre parler de l'accessibilité, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet qui est plaisant. Penser aux gens qui ont des problèmes dans la vie, tout ça, on s'en fout. On va faire regarder des pubs avec des jolies filles à moitié déshabillées, quoi. Sinon, on montrait des gens dans les fauteuils roulants pour vendre du chocolat, vous voyez, à la télévision. Ça marche pas. Donc, forcément, les gens ont tendance à se focaliser sur des trucs plaisants qui font rêver, machin, etc., et à occulter des choses comme les problèmes d'accessibilité. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie approche nécessairement militante, à mon sens, quand on parle de l'accessibilité, et que ça peut desservir le problème lui-même. Mais on n'en est pas encore à une surexposition de l'accessibilité, loin de là. Je pense qu'il faut... comme disent les Américains, c'est une uphill battle, c'est une bataille où c'est défavorable pour nous, c'est-à-dire que les gens n'ont pas tellement envie de vous écouter par nature.
Si je peux ajouter quelque chose, c'est également, si on commence à vendre l'accessibilité avec le handicap, à mon avis, on se trouve probablement de cible quand on s'adresse à des clientèles privées, publiques également, mais surtout privées. Je pense qu'il faut amener l'accessibilité par les avantages business, le retour sur investissement, le bénéfice pour l'handicapé, à la limite, c'est peut-être que la fille sur le McDo.
Je voulais juste pour donner un élément de réponse, je pense que il faut vraiment pas du tout s'arrêter au handicap. Expérience vécue, j'étais dans le bureau de Wikimedia en Floride, un dimanche le téléphone sonne et quelqu'un me dit, vous savez, je viens de me rendre compte qu'on peut éditer votre site. Pour moi, l'accessibilité, elle commence là. À partir du moment où on n'est pas capable de faire passer le message que Wikipédia est une encyclopédie qui est sur un logiciel qui permet d'éditer les pages, ça veut dire qu'à un moment, on n'arrive pas à rendre le site accessible dans son entier à la personne qui le regarde. Donc, je pense que avec des exemples comme celui-là, on peut très vite sortir de ce ghetto et de ce côté où l'accessibilité, elle commence avec tout un chacun, quoi, avec qui que ce soit qui ouvre une page web et qui a besoin de trouver l'information qu'il cherche.
Ok, alors une petite remarque de Karl, et puis après vous allez rigoler, il y a une bonne question.
Dans le monde, il y a à peu près 20% de population qui ont des handicaps quelconques. Ok. Ces gens-là achètent, consomment. Si vous ne voulez pas faire un message éthique par rapport à l'accessibilité, vous pouvez très bien faire un message business, parce que c'est une réalité.
Amen.
Je prendrais une seconde à ce moment-là pour représenter cette clientèle-là. puis dire qu'effectivement, ça se vend mieux par les avantages business. Sauf que c'est d'abord et avant tout conçu pour des gens qui ont des difficultés à accéder au contenu. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc oui, on peut vendre au PDG d'une entreprise X ou Y que ça va augmenter son positionnement dans Google. Mais il faut quand même pas oublier qu'à la base, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour que des gens puissent avoir accès à du contenu, puissent participer à l'éclosion de la société, puissent vivre en fait avec comme tout le monde. Donc, à la mesure où on l'oublie pas, j'ai pas de difficulté avec...
Sauf que des fois, c'est essentiellement, enfin c'est pas des fois, c'est essentiellement des questions de personnes, et qu'il suffit d'une ou deux personnes et d'un bon argument comme ça pour que le PDG y signe en bas du budget et t'arrives à faire le truc. Donc, parfois, on peut présenter les choses d'une certaine manière pour un interlocuteur donné, même si on a quelque chose dans la tête qui n'est pas exactement la même chose. Moi, c'est pas exactement pile poil dans l'accessibilité, mais je me rappelle en 98 avoir... j'ai dû convaincre le DIRCOM de Capgemini que faudrait peut-être qu'on fasse un meilleur boulot pour que les pages elles s'affichent dans autre chose qu'Internet Explorer sous Windows. C'était ah bon, il y a autre chose. Les Mac par exemple, les Mac personne n'utilise. C'était 5%, 6%, j'ai pas mal de gens utilisant des Macs. Je disais mais attendez, c'est 5 ou 6%. Si là-dedans, c'est 80% de décideurs qui font l'échec pour X dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires de l'entreprise, vous pouvez pas les négliger. C'est avec ce genre d'argument adapté à la cible, à la personne qui a le carnet de chèques, que ça marche.
Juste,
alors, Élie, ouais, une petite remarque.
Très rapidement, on a un problème avec l'accessibilité, c'est qu'on a une perception du thème qui est binaire. Encore une fois, les gens vont... On sait qu'il faut aller vers l'accessibilité. Et quand on diffuse le message « Allons vers l'accessibilité, améliorons nos sites », les gens n'ont pas la pression et ils peuvent se mettre en route sans se dire qu'ils ont une montagne en face. Dans l'immense majorité des cas, quand on parle aux gens, ils voient une montagne en face parce qu'ils pensent double, triple A. Quelquefois, ils pensent uniquement triple A ou rien. Et en fait, ils se retrouvent dans un cas où ils ont l'impression que l'accessibilité, c'est un truc qui est presque... inaccessible en soi, c'est-à-dire que leur site ne pourra jamais, parce qu'on a des contributeurs, parce que, pour tout un tas de raisons. Et notre boulot, c'est aussi de dire, chaque petite barrière qu'on lève, et en fait, l'accessibilité, c'est ça, c'est un ensemble de petites barrières pour tout un tas de publics et de machines. Toutes ces petites barrières qu'on lève, en fait, peuvent se lever au quotidien, et on n'est pas obligé de voir ça de manière complètement binaire. Et je crois qu'au-delà des bénéfices qu'on a à y gagner, parce que nous, on le sait, on a aussi à démythifier un peu ce truc-là, cette espèce d'énorme montagne qui nous fait dire « je n'y arriverai jamais, je ne serai jamais conforme ». Alors pourquoi y aller ?
A lot of the accessibility best practices actually benefit normal users. For example, if you code your HTML forms properly, if you click on the label, it will just automatically select the checkbox. So small things like that help people who are able. The other thing, more to the point, what Carl and also Denis were saying. Have you spoken to anyone who's blind lately? Every other blind person I've spoken to actually really likes the web because they can buy things. And the percentage of people who are blind using the web will probably buy more things than the percentage of people who are not blind and using the web because they can go to shops. So if your e-commerce site is not accessible, you're losing a lot of customers.
Alors, une petite remarque de Jacques Pira de Pira.net.
Merci. sur la dimension de s'adresser seulement aux minorités, il se trouve que si effectivement on s'adresse à une minorité, c'est généralement tout le monde ou des gens à qui on n'avait pas pensé qui en bénéficient aussi. Je donne juste un exemple. Les rampes d'accès aux fauteuils roulants bénéficient aux femmes qui ont une poussette avec un bébé dedans.
Aux gens qui ont des entorses. Merci
et aux skateboarders, il ne faut pas les négliger.
Une question qui dépasse un tout petit peu les technologies qu'on a évoquées aujourd'hui. Qu'en est-il, selon vous, de l'accessibilité des applications riches, type Zool, évidemment? C'est pas une réponse binaire qu'on attend. D'accord, Joker. Donc moi j'aurai un élément de réponse, mais je vais te laisser dire peut-être. J'ai quelqu'un qui peut répondre là-bas aussi.
L'accessibilité des technos du type Zool est exactement la même que celle des autres dialectes de type XML. Donc c'est pas Xul, enfin c'est pas XML qui fait l'accessibilité. Il faut prévoir ces genres de choses-là. Et quand on fait, quand on écrit, quand on design un langage d'interface utilisateur du type Xul, clairement on pense à l'accessibilité et on pense à la navigation par les touches tap pour les gens qui n'ont que 3 touches sur un clavier. Prendre une interface utilisateur qui est donc quelque chose d'excessivement visuel pour l'adapter à quelqu'un de non-voyant ou malvoyant présente des difficultés monumentales. Le nombre de paradigmes que tu utilises pour manipuler une interface utilisateur est énorme. Ça va du, c'est le pointeur, c'est le déplacement, c'est le clic, c'est la visualisation, c'est excessivement difficile. Personnellement, je ne suis pas malvoyant, je suis peut-être un peu stigmate quelque part, mais ça, je pense que 30 ans d'informatique, ça arrache un peu. J'ai beaucoup de mal, personnellement, étant bien voyant, à comprendre comment les gens peuvent malvoyant manipule une interface utilisateur complexe.
J'ai un élément de réponse, je vous laisserai bien répondre parce que c'est comme ça, table ronde, les gens d'FTRD travaillent dessus.
Alors, à la limite, je crois que c'est un domaine dans lequel les concepteurs d'interface utilisateur, je parle pas des gens qui écrivent d'interface, mais gens qui écrivent les langages d'interface utilisateur manquent cruellement d'input parce que eux-mêmes sont bien. Et ils ne peuvent pas conceptualiser le problème.
C'est un petit peu
hein, clairement, on fait tout ce qu'on peut pour que le problème soit résolu. Maintenant, je suis pas sûr qu'on soit au fait de tous les soucis.
Il y a des travaux qui sont faits dans ce domaine sur on parle de Xul, donc le projet Mozilla, qui sont faits sur le projet Mozilla par IBM. Donc en fait, IBM contribue en grande partie au projet Mozilla sur tous les aspects accessibilité. Et ça, c'est des choses qu'on va voir. S'améliorer dans les versions successives de Firefox. De la part d'IBM, c'est très bien parce qu'en fait, ça leur permet de répondre à des appels d'offres avec un navigateur accessible qui va tourner sur plusieurs plateformes, dont Linux, etc.
Je vais donner une réponse décisionnelle en 2 mots. Flex, pour le moment, n'est pas accessible. Xul est modérément accessible dans un environnement Windows parce que j'ai pu le tester que là avec une synthèse vocale. Qu'est-ce qui nous manque? XAML, on l'a pas testé encore, mais comme il utilise les interfaces de Windows, a priori, je suis désolé, mais il sera sans doute nativement plus accessible. Ajax, on en a un petit peu parlé. Voilà, ça c'est pour les décideurs, on lance quelques mots, on va pas vous rentrer dans le détail. Eclipse RCP, pour finir, qui demande une grosse installation d'interface client, derrière, permet quand même, avec quelques simplifications de l'interface, d'avoir une interaction avec le client riche, qui est franchement du niveau d'une personne non handicapée. Donc voilà, quelques pistes pour la personne qui a posé la question. Il nous reste 5 petites minutes. Ah, alors j'ai une question là, qui est assez rigolote. Je vais dire que c'est un troll, Tristan, mais en fait elle est intéressante parce que c'est une vraie question décisionnelle que les gens se posent, je pense. Depuis le début de la journée, on a dit que 2 versions de sites, ça ghettoisait d'une certaine manière les clients. Vous connaissez tous l'exemple de Tesco, supermarché anglais, qui avait fait une version accessible, sans mettre les promotions qu'il y avait dessus. Un aveugle, un jour, se rend compte que si seulement il avait des yeux, il pourrait acheter la promotion, mais non, comme il est aveugle, il doit payer le prix fort. Il perd un procès, avec raison. Donc, voilà, un tout petit élément de réponse sur le fait que faire 2 interfaces, c'est pas si facile. Toujours est-il que la question qu'on nous pose, c'est, eh bien, par exemple, dans le domaine automobile, un handicapé moteur n'a pas la même interface d'accélération, par exemple, on appuie sur une barque et sur le volant, qu'une personne comme vous et moi qui appuie sur la pédale. Alors pourquoi ce serait pas pareil sur Internet? Pourquoi est-ce qu'on se force, dans le cas d'interface qu'on sait ne pas pouvoir rendre accessible, à avoir un discours d'unicité de l'interface?
Ah, mais parce qu'ils roulent sur les mêmes routes avec des user agents différents. Voilà la réponse. C'est qu'ils utilisent des navigateurs différents avec des interfaces différentes et ils utilisent le même réseau. Donc en fait, c'est le réseau. C'est ça qui compte. Ils peuvent effectivement utiliser une interface différente pour accéder au même réseau.
Moi, j'espérais que vous alliez vous étriper. Je suis très déçu. Alors, François, tiens, je vais donner le micro à François d'abord.
J'ai un autre élément. Pas tout à fait d'accord, parce que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de rampe pour handicapés. On peut très bien faire des escaliers partout. Un exemple, je fais un parallèle parce que là, on avait une toute petite discussion avec Daniel et je crois qu'on n'est pas exactement d'accord. Enfin, on peut être d'accord, mais en termes d'ergonomie, par exemple, il y a plusieurs années, ce cher Jacob Nielsen, si vous le connaissez, prenait le fait que c'est complètement idiot de faire des sites qui marchent dans tout et n'importe quoi, y compris des téléphones mobiles, qui ont un écran gros comme un timbre-poste. Et moi, je crois qu'il avait raison sur le fait que on peut aussi réfléchir à des services. On parlait de contenu et de services. Si on part vraiment de là, on peut réfléchir à refaire un certain nombre de choses sur un site uniquement pour un téléphone mobile. Ben, je pense que c'est exactement la même idée. On peut également, pour certains, pas pour tout le monde, ça vaut pas le coup économiquement pour tout le monde, mais pour certaines choses spécifiques, je suis à peu près persuadé que c'est beaucoup mieux de refaire un site spécifique pour des aveugles ou pour des sourds ou pour en particulier, je pense, dans le commerce électronique ou dans le monde des services, qui est réellement, mais pile poil, adapté à cette population-là. Et ça fait exactement ce qu'ils cherchent. Et pas un espèce de machin avec une perruque qui lit, enfin, la démonstration de Jaws avec Wikipédia. Moi, c'était édifiant. Ce truc n'est pas fait pour aider les gens à surfer, les aveugles à surfer sur le net. Alors qu'on doit pouvoir réaliser des sites qui sont vraiment faits. Mais je parle pas Wikipédia, c'est beaucoup trop, c'est pas le bon exemple. Mais j'en sais rien. Moi, je suis pas aveugle, donc je connais pas les réalités de ce handicap. Mais il doit y avoir des gens qui doivent l'adresser vraiment en disant moi, 100% de ma cible, c'est des aveugles et je vais faire ça exactement comme il faut. Alors que là, on est en train de discuter et c'est noble, hein, d'accessibilité au sens universel, où effectivement, j'essaye de faire au mieux une seule chose, un seul site, qui est le plus accessible possible à plein de choses, mais comme quelqu'un l'a dit aussi, on ne sait pas. Après tout, il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous voir en disant « moi, j'y arrive pas ».
Daniel ?
Ouais, ta question n'était pas un troll, je vais peut-être répondre par un troll.
Welcome.
Tu as mentionné les voitures qui sont différentes en fonction de l'usage. Donc tu attends des clients de navigation différents. Je pense que le problème c'est l'argent. Je vous signale que les navigateurs sont gratuits, que en général ce sont des centres de pertes pour les éditeurs de logiciels, à part pour Firefox, mais c'est un cas extrêmement spécial. L'open source et le logiciel libre, c'est vraiment très 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 particulier comme business model. Il n'y a pas de retour tout à fait quantifiable. L'investissement de Renault sur la dernière ligne de production d'un véhicule, ça n'a rien à voir avec le coût de production d'un logiciel comme un navigateur sur 4 ans. Même à l'époque Netscape avec une équipe de 100 développeurs. C'est un ordre de magnitude complètement indépendant. Donc je pense que le problème c'est le pognon. Si on avait plus de pognon, si le projet navigateur représentait plus de pognon, on aurait de l'accessibilité.
Alors une dernière remarque de Karl et puis après on va être obligé de conclure malheureusement.
C'est difficile de répondre. Alors premier point, l'accessibililité ce n'est pas les aveugles. C'est
Merci.
Plein de gens différents. C'est plein de gens différents. Donc si tu commences à concevoir un site pour les aveugles. Tu vas falloir concevoir un site pour les handicapés moteurs, et puis, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à utiliser une souris, etc. Donc, il faut... Non. Attends, j'y arrive. Donc, on a parlé tout à l'heure de surqualité. Il faut aussi placer parfois une barrière raisonnable dans le développement web. On peut pas tout faire, on est d'accord. Et parfois, il y a des besoins très spécifiques pour certaines communautés. Une chose qui illustre Wikipédia, tous les CMS qui sont développés actuellement ou toutes les interfaces de fonctionnement d'édition des sites web passent par le navigateur, c'est une horreur. Le premier navigateur qui a été créé, World Wide Web, comme a cité Pascal, c'était un éditeur qui fonctionnait avec HTTP Put. Il y avait une interface riche logicielle pour pouvoir éditer le web. Actuellement, on est en train de développer des surcouches de surcouches de surcouches pour faire de l'applicatif au sein du navigateur. On développe Ajax, etc. C'est des horreurs, ça. C'est un jour, j'espère qu'on va réussir à s'en extraire et qu'on va repasser à un applicatif réel au niveau du logiciel et qu'on gère du document au niveau du web. Reséparer les deux. On a fait la séparation présentation et contenu, il faut qu'on fasse la séparation applicatif-contenu. Ce n'est pas encore fait.
Alors, ça c'est une bonne piste de réflexion qui dépasse de loin le décisionnel, mais je pense que là vous aurez de quoi lire pendant au moins 2 ans sur Lagrange, parce que c'est vraiment le cœur du problème d'un point de vue théorique, plus que décisionnel encore. Malheureusement, on est à court de temps parce qu'on a une salle à rendre dans 3 minutes. Juste un petit mot alors, mais ça va être le dernier. Merci beaucoup.
Oui, Sylvain Côte. On a parlé des routes, etc. Je voudrais dire que, à mon sens, il y a 500 ans, le monde entier n'était pas du tout accessible. Il y a des explorateurs qui en ont payé le prix fort.
Oui, mais les handicapés moteurs se faisaient manger par les loups.
Voilà.
That's mais no excuse.
Quelque part, dans ce web qu'on veut universel au départ, comme un champ de connaissances, et qui devient par chance quelque chose qui a le potentiel d'être universel, on est confronté à cette responsabilité que universel, oui, c'est effectivement pour tout le monde. Et on est confronté à la problématique technique qu'on est dans un univers en complète mutation permanente. Donc il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, qui techniquement, sur les premiers 100 mètres, va être plus adapté à des gens qui sont... les gens qu'on développé, qui ont pensé un peu à eux, un peu à leur famille, et puis la réflexion s'arrête là. Et je pense, on a parlé d'industrialisation, je conclue, on a parlé d'industrialisation comme une réponse potentielle au problème d'accessibilité. Je voudrais dire que ça peut marcher, mais je pense aussi qu'on va toujours avoir les mêmes défis dans ce métier-là, des choses nouvelles qui vont apparaître, et qu'il faut pas qu'on perde de vue que c'est en y pensant quotidiennement qu'on a une chance de garder à l'esprit qu'il y a toujours quelque chose à faire et que l'industrialisation ne va pas répondre à tout. C'est davantage aussi quelque chose qu'il faut que chacun pense chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau.
Ok. Merci. Alors comme Stéphanie a fait le tour du monde pour venir parler, on va lui donner une toute petite minute.
Just something very simple to say. Just on the very general question of whether we should make sites accessible or not. Now, the French language, for example, has accents that English did not have. Not very many years ago, you can't type French accents. So imagine if that's the kind of equivalence you have if you're a person with disabilities and cannot use the site in the same way that an able person can. It's the same kind of discrimination. So it wasn't so long ago that it was different for French speakers. And in that same way, we shouldn't take it for granted that, you know, we ought to make good sites according to best practices.
Alors, un petit mot de conclusion. D'abord, deux petits mots pratiques. Pensez, pour les gens qui restent demain, à garder vos badges, parce que, comme on n'est pas très malin, on a fait les mêmes badges pour le jeudi et le vendredi. Les gens qui veulent aller à l'apéritif communautaire sont évidemment les bienvenus. On va y partir tout de suite. Les livres des rôles seront remis là-bas aux gens qui seront présents. Une dernière petite chose avant de partir, je me permets de re-remercier nos partenaires parce que, sincèrement, ils nous ont appuyés depuis le début. Je l'ai déjà dit, je vais le redire et vous aurez l'impression que je rabâche, mais c'est vraiment important. Sans eux, on n'aurait pas pu le faire. Donc, encore une fois, merci à IBM, merci Mozilla Europe, merci France Télécom. Une dernière note personnelle, je me permets d'adresser un grand bravo à Alice. Ce qu'elle fait là, je vous le redis, c'est quelque chose que personne ne fait professionnellement. Bravo. Bravo Alice. Merci beaucoup, merci à tous. Vivement demain qu'on recommence, donc les mêmes horaires. Et puis voilà, bon pied, bon œil et bon apéro pour ceux qui y vont. Et on se retrouve là-bas avec plaisir. Si vous voulez continuer à discuter, la plupart des orateurs seront là de toute façon.